Logiquement, il faudrait les administrer aux premières personnes sur la liste, les aînés, et ce, le plus rapidement possible, parce que la grande majorité de ces vaccins seront périmés dans un mois. Sauf que certains experts estiment que le vaccin britannique n'a pas prouvé son efficacité pour les personnes de 65 ans et plus. Pour illustrer la controverse, voici la conseillère scientifique en chef du Canada, Mona Nemer, suivie du microbiologiste à l'hôpital juif de Montréal, Carl Weiss.
Sans aucune hésitation. Vous savez, c'est un vaccin qui empêche 100% les hospitalisations et les décès.
C'est pas un mauvais vaccin. Si on n'avait pas d'autres vaccins, probablement que les gens le prendraient. Mais dans le contexte actuel, si le Canada a commandé beaucoup de vaccins, aussi bien à Moderna et à Pfizer, si j'avais le choix entre zéro et le vaccin d'AstraZeneca, c'est clair que je prendrais le vaccin d'AstraZeneca.
Maintenant, pour accélérer la vaccination au Québec, le gouvernement ajoute des bras, ceux des pharmaciens, qui vont venir en renfort dès le 15 mars. Dans un premier temps, les vaccins seront disponibles dans 350 pharmacies de l'île de Montréal. La mesure sera par la suite étendue au reste de la province. Les précisions de Naïla Bendali.
Le nombre de nouveaux cas diminue au Québec, mais la courbe des variants, elle, prend de l'ampleur, avec 137 cas confirmés et plus de 1000 cas présumés. C'est le calme avant la tempête, craint le ministre de la Santé, Christian Dubé.
On est entre 12 à 15 % de nos cas positifs qui sont des variants. Si la semaine prochaine, ça monte encore, ça peut devenir très dangereux. Et je vous le dis franchement, on a peur de cette situation-là. On a peur particulièrement dans la région de Montréal.
Le gouvernement veut donc accélérer la campagne de vaccination pour couper court aux variants. Dès le 15 mars, les pharmaciens pourront administrer des doses à Montréal. À terme, plus de 1400 pharmaciens offriront le vaccin partout au Québec. Benoît Morin de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires.
Vous pourrez consulter le site de Clic Santé et avec l'aide de votre code postal, vous allez voir s'il y a votre pharmacie ou si les pharmaciens environnants offre le service de vaccination.
L'offre en pharmacie cible les mêmes personnes que celles visées par la campagne de vaccination massive en ce moment. Les pharmacies sont des lieux bien connus et fréquentés par les personnes âgées. Paul Brunet, porte-parole du Conseil pour la protection des malades, applaudit la mesure.
Tant mieux si on peut rapprocher les lieux de vaccination des personnes âgées.
Les pharmaciens vont pouvoir administrer 2 millions de doses sur les 12 millions prévus au Québec. Ici Naïla Bendali, Radio-Canada, Montréal.
On ne se limite pas à 5 verres d'alcool. C'est une, deux bouteilles de vin, des fois trois.
Auparavant, je fumais 5-6 cigarettes par jour. Depuis la COVID, je suis rendue quasiment à 20 cigarettes.
Cannabis, alcool ou tabac, bien des Canadiens s'y accrochent en cette période de pandémie. Selon un sondage Ipsos commandé par Radio-Canada, ceux qui en consommaient déjà avant la crise ont augmenté leur consommation. Par exemple, plus de 40 % des utilisateurs de cannabis disent en prendre davantage. Ce sont surtout les jeunes de 18 à 34 ans qui utilisent le plus ces substances. Voici Sébastien Dallaire d'Ipsos Canada.
Les jeunes ont été plus affectés mentalement et dans leur travail, dans leurs finances par la pandémie. Et ça se reflète dans la consommation d'alcool, de cannabis, de tabac. C'est aussi une consommation qui est peut-être plus dommageable parce que c'est une consommation à la maison.
Le sondage a été mené en ligne du 12 au 17 février auprès de 3000 Canadiens.
Justice.
C'est aujourd'hui qu'on connaîtra le verdict dans le procès d'Alec Minassian, l'auteur présumé de l'attentat au camion Bélier qui a fait 10 morts et 16 blessés en avril 2018 à Toronto, l'attaque la plus meurtrière qu'a connue la ville. Il est accusé de meurtre prémédité et de tentative de meurtre. Ses avocats soutiennent que la forme d'autisme de l'accusé l'empêche de distinguer le bien du mal. Le suspect arrêté après le drame familial à Sainte-Sophie dans les Laurentides sera interrogé dès que son état le permettra. Lundi soir, dans les Laurentides, une jeune femme de 28 ans et sa mère de 60 ans ont été assassinées. L'affaire semble être liée à un autre cas de violence conjugale. Il pourrait s'agir d'ailleurs des quatrième et cinquième féminicides à survenir cette année au Québec, ce qui inquiète les organismes d'aide. Reportage, Éric Plouffe.
Des membres de la famille des deux femmes assassinées qui se sont rendus devant la résidence où s'est déroulé le drame semblaient dépassés par les événements.
Écoute, c'est pas évident. On voit ça dans des films, hein, des choses comme ça. Quand ça arrive dans la famille, c'est comme pas évident. Là.
Louise Riendeau du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales est aussi choquée par le drame et par le nombre de femmes tuées depuis le début de l'année, vraisemblablement dans un contexte de violences conjugales.
C'est la moitié de ce qu'on a connu l'année dernière. Et on a entendu le 2 mars seulement.
Elle dit qu'il faut faire davantage et plus vite pour tenter de joindre les victimes potentielles et leurs proches.
Je pense que beaucoup de femmes et de leurs proches n'identifient pas toujours la violence conjugale, savent pas nécessairement les moments qui peuvent être plus dangereux. Donc, il faut faire plus d'informations à ce niveau-là.
L'urgence d'agir réside aussi dans sa crainte d'une recrudescence du nombre de victimes une fois la pandémie terminée.
On sait que souvent, les meurtres de femmes en contexte conjugal arrivent au moment où elles tentent de mettre fin au contrôle de leur conjoint.
Le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales espère que le gouvernement québécois consacrera des sommes supplémentaires dans le prochain budget pour soutenir les groupes d'aide et les campagnes de prévention. Éric Plouffe, Radio-Canada, Montréal.
À Montréal, la saga du toit du Stade olympique n'en finit plus de rebondir. Selon nos informations, le remplacement de la toiture actuelle en mauvais état est loin d'être finalisé. Québec a finalement écarté l'idée d'avoir une toile démontable, ce qui aurait permis d'avoir un stade à ciel ouvert pour certains événements. Les détails avec Romain Chouet.
Le Stade olympique va-t-il un jour avoir un toit durable? Quasiment un demi-siècle après sa construction mouvementée, l'édifice est toujours à la recherche d'une toiture sécuritaire.
C'est vrai que c'est une saga, mais une saga, c'est une belle histoire aussi. Et c'est compliqué, mais c'est motivant.
Le PDG du Parc olympique, Michel Labrecque, admet des difficultés, des contraintes qui ont poussé le gouvernement du Québec à revoir ses plans. Alors qu'une nouvelle toiture démontable était envisagée, cette option vient finalement d'être rejetée.
On en est venu à la conclusion que les opportunités d'affaires sur le cycle de 60 ans étaient très faibles. Elles étaient là, mais que ce qu'on avait surtout besoin, c'est une toiture fiable qui résiste aux conditions climatiques de Montréal, hiver comme été.
Mais pour le moment, les firmes intéressées par ce projet ne courent pas les rues. Un seul groupe a levé la main lors de l'appel de qualification lancé l'an dernier, et Québec pourrait relancer le processus.
C'est vrai que c'était décevant. Et là, on poursuit les réflexions sur les options.
À l'heure actuelle, une nouvelle toile est attendue pour 2024. Mais de nouveaux retards ne sont pas exclus, reconnaît Michel Labrecque.
On n'a pas les moyens de se tromper une troisième fois. On est extrêmement précautionneux. La toiture Bird Air actuelle est dysfonctionnelle depuis 20 ans. On n'est pas à 6 mois près. Donc, on est tension.
La toiture actuelle compte plus de 16 000 déchirures. Et en raison des risques, le Stade olympique doit fermer ses portes une bonne partie de l'hiver. Ici Romain Chouet, Radio-Canada, Montréal.
Voilà, c'était le Radio-Journal. En passant, vous pouvez obtenir notre Flash Info. 2 minutes des principales nouvelles 3 fois par jour sur votre assistant vocal. Votre émission du matin se poursuit. Bonne journée.
Sur ici Radio-Canada Première.
L'ensemble des fonctionnaires au Québec par rapport que l'argent n'était pas là. Alors vous avez la résultante. Pierre-Éliott Trudeau envisageait de nuire à l'économie du Québec à la suite de l'élection du Parti québécois en 76. D'après des documents déclassifiés par le département d'État américain. Et tu sais, il était tout bien arrangé avec la petite clique habituelle qu'on connaît. Dans une série de câbles mis au jour par le réseau CBC et émis suite à l'accession au pouvoir du Parti québécois pour la première fois, le diplomate rapporte ses conversations avec le premier ministre Trudeau, mais aussi avec le président de Power Corporation, Paul Desmarais. Certains câbles diplomatiques avec les États-Unis en 76 après l'élection du PQ, ils étaient maintenus secrets par Washington jusqu'à récemment. Celui-ci lui aurait confié que Trudeau souhaitait qu'il rende les choses difficiles, le plus difficile possible au PQ, en délocalisant massivement des emplois à l'extérieur du Québec. Ces communications maintenues secrètes jusqu'à présent dans les archives de Washington ont fait bondir les troupes souverainistes. Ce qui est particulièrement odieux, c'est qu'ils ont fait délibérément souffrir les Québécois en minant notre économie, a réagi le député du Bloc québécois Stéphane Bergeron. Pour lui, le fédéral a pour stratégie de nuire à l'économie du Québec encore aujourd'hui. C'est complètement farfelu, ce sont des hallucinations des gens du Bloc qui ne voient qu'une vaste conspiration du reste du Canada contre le Québec, défend l'ex-ministre libéral, la girouette à la longue, l'opportuniste à la longue. Moi, j'en reviens pas, la longue. Moi, je l'aimais pas, ce ministre-là. Puis il m'a déjà ouvert la porte quand je suis rentré dans un hôtel. J'étais avec une gang de journalistes, on avait été au Mont-Gabriel. C'est incroyable, c'est un individu incroyable, en tout cas. C'est des petits amis de la gang à Desmarais. Au contraire, dit-il, alors, bon, en tout cas, pour l'historien souverainiste Frédéric Bastien, les communications diplomatiques reflètent le sentiment de panique qui habitait Trudeau après la victoire surprise du PQ. À ses yeux, le mouvement souverainiste était l'incarnation du mal et tous les coups étaient permis pour mater, renchérit l'historien Éric Bédard. Le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon a exigé la divulgation complète des documents. J'ai hâte de voir ça. Notre priorité en 2021, c'est de collaborer avec le Québec pour sortir les Québécois de la pandémie et de la crise économique, a répliqué le cabinet du leader du gouvernement de la Chambre des communes, Pablo Rodriguez, la belle marionnette de Trudeau. Eh oui, alors, à part ça, qu'est-ce qui retient l'attention de ce 24 février? Mais moi, je vous dirais franchement que ça me surprend pas du tout, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, c'est incroyable. Pierre-Éliott Trudeau traite à son peuple, c'est que cite Mathieu Boccoté dans le Journal de Québec d'aujourd'hui. La CAQ et Cégep anglais, un diachylon sur le bobo. Quand on pense que les terrains du gouvernement fédéral à Sainte-Foy, on parle de plusieurs hectares, ça va être pour